Le magazine Femina de VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien, c'est Nathalie Barge avec vous. Les chiffres de l'excision sont en hausse dans le monde, selon l'UNICEF. En effet, au moins 200 millions de filles et de femmes dans 30 pays ont été excisées, selon un rapport de l'UNICEF publié le 5 février, à la veille de la Journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, la moitié de ces filles et femmes, soit environ 100 millions, vivent en Égypte, en Éthiopie et en Indonésie. 200 millions, c'est près de 70 millions de plus que ce que l'UNICEF avait estimé en 2014. Le rapport explique que cette hausse résulte d'une croissance démographique dans certains pays et de l'ajout de nouvelles données provenant de l'Indonésie. En septembre 2015, les Nations Unies ont adopté l'objectif de faire complètement disparaître les MGF d'ici 2030. Si la fréquence des mutilations génitales féminines a baissé dans l'ensemble au cours des 30 dernières années, l'UNICEF soutient que ce n'est pas suffisant pour compenser la croissance de la population. De même que si la tendance actuelle persiste, le nombre de filles et de femmes victimes de l'excision montera en flèche au cours des 15 prochaines années. Dans les 30 pays étudiés par l'UNICEF, la plupart des filles ont été excisées avant leur 5e anniversaire et 85% des fillettes du Yémen ont subi l'excision au cours de la première semaine de leur existence. Par ailleurs, selon un communiqué publié dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l'excision, co-signé par Mariam Lamizana et le docteur Maurice Andakouyaté, respectivement présidente et directeur du comité interafricain sur les pratiques affectant la santé des femmes et des enfants. Les MGF constituent une violation grave et flagrante de l'intégrité physique et des droits des filles et des femmes, est-il écrit. L'heure n'est plus au débat oiseux. Il faut agir pour éliminer cette pratique inacceptable et dégradante, peut-on lire dans le communiqué du CIAF, terminant sur une question. En 2030, plus de mutilations génitales féminines, pourquoi pas avant? À présent, voici un entretien avec le docteur Younoussa Touré, socio-anthropologue, auteur de divers ouvrages sur l'excision, qui lutte depuis plusieurs années pour faire interdire l'excision au Mali, comme dans certains pays d'Afrique de l'Ouest.
Oui, je pense que les mentalités n'ont pas tout à fait évolué, ou peut-être qu'elles ne se sont pas, en tout cas, jusque-là, adaptées au message. Enfin, non, elles ne sont pas tout à fait réceptives au message qu'on leur envoie par rapport à ces phénomènes de lutte contre l'excision. Je pense que c'est un peu plus ça qu'une situation d'évolution. C'est-à-dire que, à mon avis, les gens ne sont pas tout à fait, dans certaines mesures, convaincus par les messages, parce qu'il y a des messages qui sont souvent contradictoires entre les différents intervenants de l'excision sur la contraception, sur la planification, etc. Et puis, bon, il y a d'autres qui trouvent un peu leur pain et qui ont un langage contraire. Donc, à peu près, c'est ça, quoi. Donc, c'est pas que les mentalités n'ont pas évolué. Les mentalités ont évolué dans la mesure où les gens, de plus en plus, connaissent les méfaits, connaissent les dangers. Mais il y a juste deux phénomènes. On a voulu lutter du côté de la loi, on n'est pas allé trop loin. Du côté de la religion, on leur a dit dans une certaine étude qu'il n'est pas permis à un imam, quel que soit son niveau, d'interdire ce que le prophète et salut celui n'a pas interdit. Du côté des villageois, les chefs de village vous disent qu'une coutume, ils ne l'abolissent pas, puisque abolir une coutume dans un village, ils disent il vaut mieux abandonner le village que d'abandonner la coutume. Alors si on veut s'adresser sur ces hommes et les exigences qui y trouvent leur pain, si on veut s'adresser sur ces aspects, sur ces facteurs-là, je pense qu'on n'ira pas très loin. On n'ira pas très loin et je pense qu'il y a un phénomène de recrudescence, certainement dû au fait que quand une lutte perdure, les gens ont plutôt l'impression qu'en fait, ce n'est pas tellement l'affaire des gens qui aient des solutions, mais c'est plutôt bon pour eux que la lutte dure.
Mais docteur, hormis tous ces facteurs, est-ce que la population n'est pas plus sensible à la souffrance de ces jeunes filles, de ces enfants? Parce que qui n'a pas vu des images d'une petite fille excisée, parfois en plein public, de voir sa souffrance morale et physique? Est-ce que cela, ça ne permet pas à certaines personnes quand même d'avancer un petit peu plus dans le sens de leur bien-être?
Oui, tout à fait. Mais vous savez, il y a des zones où l'excision s'est faite justement pour faire souffrir. C'est une épreuve d'endurance. Vous voyez bien? Donc c'est comme ça que dans certains contrées, on comprend. On pense que quand on va, l'excision, c'est un rite de passage. Un rite de passage exige vraiment quelques épreuves à passer. Et on pense que dans cette souffrance, c'est vraiment une sorte de bravoure pour montrer qu'on peut passer vraiment à la case supérieure. Il y a des endroits où on faisait monter les filles excisées immédiatement sur des chevaux pour voir encore juste leur niveau d'endurance. Donc si on va sur ce chemin-là, c'est comme si vous dites aux gens, ça fait souffrir. Ils vont vous dire, oui, mais c'est bien ce qu'on cherche. On veut que les gens sachent que dans la vie, on va souffrir. On ne passe pas d'une classe à l'autre sans aisément. Donc, voyez bien. Donc, chaque fois qu'il y a un message, il faut trouver, est-ce que dans la société, il n'y a déjà pas une situation là où il n'y a pas d'autres arguments qui peuvent aller contre ce message-là. Vous voyez bien, sur l'aspect de la souffrance, ça ne tient pas toujours la route dans certains endroits. En plus, la souffrance de la jeune fille, vous savez, maintenant, à Bamako, les gens font l'excision pendant que la fille est au berceau. Hein? La fille est au berceau. Et ça, c'est peut-être encore plus douloureux pour la petite fille. Mais on a le sentiment que, bon, puisque on doit le faire, et ils pratiquent ce qu'ils appellent l'excision à la sunna, c'est-à-dire à la tradition, c'est-à-dire bon, on enlève un petit peu et on pense que ça ne fait pas mal. Donc vous voyez bien, quand on veut lutter, les arguments qu'on doit amener, on doit savoir est-ce que dans le groupe social, dans la société où on veut parler de ça, est-ce qu'il n'y a pas des arguments contraires? Vous parlez de souffrance, on vous dit oui, le but c'est de faire souffrir, le but est de montrer que les gens peuvent endurer. Oui, bien,
les filles, en fait.
Oui, vous savez, les filles, jusqu'à présent, les filles, nous sommes dans une société où la fille, elle est dépendante. C'est le parent qui veut... l'intérêt de la fille, c'est un peu nouveau tout ça. Il faut le faire comprendre que l'intérêt de la fille, ce n'est pas l'intérêt des parents. Pour le parent, c'est une gloire que de savoir que son fils ou sa fille vraiment a résisté à cette épreuve. On s'en glorifie. Et quand la fille ne va pas en vie, la fille, elle a dégénéré la famille, ou bien le monsieur, il a dégénéré la famille. Donc, vous voyez bien que la façon de prendre les trucs. Non, mais il y a d'autres arguments sur lesquels on peut aller, on peut abonder, qui peuvent porter. Mais lorsqu'on va sur ces arguments-là, étant donné que l'excision est un rite de passage et que tout rite de passage nécessite de passer des épreuves, quand vous dites aux gens, la fille va se dire, oui, c'est bien fait, c'est pour qu'elle souffre et pour qu'elle sache endurer dans la vie. Vous voyez bien un peu la situation.
Alors, à ce propos, pourriez-vous nous parler, s'il vous plaît, de l'infibulation qui, outre l'ablation des organes génitaux externes, consiste à coudre l'orifice vaginal pour le rétrécir? On parle là de l'excision sous sa forme la plus sévère.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Ça, c'est vraiment la forme la plus sévère qu'on retrouve rarement un peu au Mali. On en trouvait un peu, mais là, les raisons sont très simples. L'infibulation, c'était une façon pour eux de préserver la virginité de la fille jusqu'au mariage. Et il n'était pas rare de voir que lorsque la fille a été infibulée, qu'on ne procède à l'ouverture que pour la préparer à la noce. Moi, j'ai eu des entretiens avec des femmes qui me disent que c'est ce qui était souhaitable chez eux, que la fille arrive bien ensanglantée chez son mari, et le mari sait que maintenant, c'est vraiment sa propriété. Bien sûr, ça c'est des pratiques cruelles, mais comment les faire disparaître? Parce que l'infibulation, déjà, je crois qu'on le pratique très peu, en tout cas au, au Mali, dans mes recherches, je n'ai vu qu'une seule zone où on le faisait. Et je pense même dans cette zone, ils sont en train d'abandonner ça. Ils ne l'ont déjà pas abandonné. Maintenant, le reste, sur toute la littérature aujourd'hui, toutes les perceptions sur l'excision demeurent. Mais l'excision et l'infibulation, ce n'est pas la même chose. L'infibulation, c'est peut-être, on considère ça comme une forme d'excision, mais en réalité, ce n'est pas une forme d'excision. C'est une forme de prévention de certains comportements chez la fille. Et ça, peut-être que ça peut rentrer dans le cadre de l'excision, mais ça va au-delà de l'excision. Ça, c'est une pratique qui va au-delà de l'excision, qui ne s'explique pas aujourd'hui, parce que dire qu'on veut avoir une fille vierge le jour de son premier mariage, bon, même dans les sociétés les plus reculées maintenant, c'est des questions que les gens ne se posent pas beaucoup, même si les parents sont souvent fiers de voir ça.
Docteur, que pensez-vous de ce contrôle exercé sur la fille et la jeune fille?
Oui, bien sûr, ce contrôle-là, c'est exercé sur la jeune fille, ce n'est pas seulement sur la jeune fille, vous savez, c'est aujourd'hui sur le contrôle est exercé sur tous ceux dont les parents ou les aînés pensent avoir la responsabilité. Hein? On a la responsabilité de leur développement, de leur croissance. En fait, pour eux, c'est des stratégies de préservation de leur progéniture. Naturellement, avec l'évolution, on se rend compte que cette stratégie ne tient pas la route, mais ce problème de contrôle existe, que ce soit au niveau de l'excision, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit même au niveau du partage des bénéfices ou bien du partage des récoltes, des productions. Il y a toujours ce sentiment que les cadets n'ont pas toujours droit à la parole.
Vous dites un contrôle exercé sur tout le monde. Alors, vous voulez dire sans doute les enfants, mais docteur, vous savez quand même bien qu'en général, c'est la fille qui en pâtit le plus.
Dans le cas de l'excision, oui, mais vous savez...
Pas seulement dans le cas de l'excision. Oui. Vous avez parlé des mariages forcés aussi.
Mais, oui, même les mariages forcés. Oui, c'est parce qu'en fait, la victime même, c'est la fille en réalité. Mais vous savez, le mariage forcé, même les garçons, ils sont souvent mis dans des mariages forcés.
Mais est-ce qu'on marie un garçon de 13 ans avec une femme de 60 ans?
Oui, mais non, ça dépend de la conception qu'on a de la fille et de nous, quand vous interrogez, par exemple, dans certaines sociétés au Mali, on vous dit, quand vous leur dites, pourquoi vous mariez ces filles à 13 ans, à quel âge vous mariez les filles, c'est juste, l'âge ne compte pas. C'est le développement corporel qui compte. Une fois que la fille a un certain développement physique qui, pour eux, est apte à procréer, donc ils passent, ce qui n'est pas toujours le cas chez la femme. Donc, vous voyez bien, ce n'est pas une question d'âge. Le mariage chez eux, ce n'est pas une question d'âge. On dit, cette fille-là, elle n'a que 11 ans, mais vous voyez. Par contre, vous trouvez des jeunes filles à 17 ans, 18 ans, qui n'ont pas une grande croissance, mais qui ne sont pas mariées ou qu'on ne force pas à marier. Donc, vous voyez bien, le problème de l'âge n'intervient pas toujours lorsque les gens y donnent. Sans compter tous ceux qui se tournent autour du mariage en don, en contre-don. Donc, ça, c'est autour. Mais je veux dire que l'âge pour ces sociétés ne compte pas. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est. Les conséquences physiques
et psychologiques.
Et les populations vous disent, si nous on sait que ça fait, si ça fait mal, nous on ne pense pas que ça fait mal parce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont toujours fait ça.
Docteur, pardonnez-moi, on a tout de même la plupart des témoignages qui dénoncent ces pratiques, que ce soit l'excision, le mariage forcé, etc. Ce sont des personnes qui ont subi ces pratiques-là.
Oui, bien sûr, vous savez, c'est des personnes qui ont suivi, même ceux qui y a des victimes collatérales, je suis d'accord avec vous. Mm-hmm. Mais je veux dire, il faut savoir aborder seulement la question sur un angle qui ne permet pas aux populations de vous répondre par ce que nous appelons, les statistiques populaires. Vous voyez bien, vous dites, bon, excusez, si ça empêche d'avoir des enfants, nous, on ne serait pas nés.
Docteur Touré, je voudrais revenir sur l'infibulation. Dites-moi si je me trompe. Hein. Dans les cas d'infibulation, lorsque la jeune femme se trouve un mari, il faut réouvrir, n'est-ce pas? Alors, dans la plupart des cas, cette nouvelle intervention est faite au couteau par l'exciseuse, sans anesthésie en général et dans des conditions d'hygiène assez déplorables, à même le sol, dit-on, hein, comme les petites filles qui sont excisées. D'ailleurs, on a tous vu des images de petites filles excisées à même le sol. Dans un tel cas, est-ce que l'on peut parler des droits de la fille, des droits de la personne, des droits humains?
Vous savez, j'ai eu ce débat-là plusieurs fois. C'est-à-dire, il faudra pas que... Il y a deux aspects qu'il faut souvent éviter quand on parle de ces choses-là avec nos populations. Vous savez, quand vous leur parlez de droits humains, vous risquez d'opposer effectivement les droits humains sur ce qu'eux, ils croient que le droit que les parents assurent de l'enfant. Vous voyez bien, en fait, l'aspect droit humain, et c'est ce qui a fait que la contre-sensibilisation a prospéré chez les musulmans et autres, là, c'est le droit humain, ils pensent que c'est le droit occidental. Donc, vous voyez bien, on pense que c'est les Occidentaux qui veulent imposer ça. Ouais, donc, quand on parle sur certains aspects, alors que quand on va sur le côté de la santé, qu'on peut démontrer qui est juste, alors là, les gens, ils sont un peu ébahis parce qu'il y en a, ah, vraiment, nous, on ne sait pas. Sans compter qu'il y a d'autres qui vous disent, bon, de toutes les façons, ceux qui réussissent mal, là, c'est quelques rares exceptions. Sinon, nous, on a toujours fait ça. L'aspect de droit humain, ça ne passe pas dans certaines communautés parce qu'ils n'ont pas cette perception positive que vous avez des droits humains. Ils ont une perception du droit du père, du droit de la famille, sur le membre de la famille, de ce que la famille pense être bon pour l'enfant, etc., etc. Eux, ils agissent comme ça. Maintenant, c'est ce message qu'il faut peut-être retourner.
Alors justement, docteur, parlons de la santé. Hein. On peut parler des déchirures subies à chaque accouchement, hein, parce que, par exemple, une femme qui a été excisée et qui a 6 ou 7 enfants, elle va subir des déchirures à chaque accouchement. On peut parler également de l'incontinence urinaire. Hein, des petites filles abandonnent l'école à cause de cela, docteur. Donc ça, c'est une question de santé sur laquelle vous sensibilisez. On peut sensibiliser
les populations. Absolument. Moi, je pense que sur la question de santé, on peut progresser. Sur la question de santé, on peut progresser. Mais pour ce qui se passe, c'est que lorsque vous leur parlez sur les questions de santé, il faut savoir que vous leur donnez des bons exemples qui souvent arrivent à les convaincre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il faut toujours se dire que dans une lutte, là, ça dépend des gens, les porteurs de cette lutte ont toujours dans la société des gens qui se mettent contre. Donc, certains chefs de village nous ont dit, et nous l'avons dit dans une dernière étude que nous avons faite, que si l'État, en tant que dépositaire de la force publique, vient leur dire, chef de village, interdisez ça dans votre village, eux, ils vont l'interdire. En ce moment, on dirait que c'est l'État qui l'a interdit. Mais eux, en tant que chef de village, ils ne peuvent pas interdire une coutume. Ils ne peuvent pas dire aux gens abandonner une vieille coutume. Maintenant, si l'État sait que ça fait mal, que sur le plan de la santé, c'est à l'État de dire, pour préserver la santé des gens, je l'interdis. Et ce que nous avons dit, il faut peut-être faire une loi, sensibiliser comme on a fait peut-être en Grande-Bretagne, on a fait une loi, on a sensibilisé pendant 10 ans avant l'application de la loi, qu'on a d'ailleurs modifiée il n'y a pas longtemps. Donc il faut faire peut-être une loi pour mettre l'idée de la répression peut-être là-dedans, mais sensibiliser sur les aspects sanitaires. Je connais des grands marabouts au Mali qui ont renoncé à la contre-sensibilisation parce qu'ils ont vu les conséquences dont vous parlez sur dans leur propre famille. Donc, ils ont arrêté d'en parler. Donc, sur ce plan-là, on peut... il vaut mieux aller sur la santé que de le parler des notions comme les droits de l'enfant, les droits humains. Ça, les droits de l'enfant passent par l'obligation qu'il a de respecter son parent. On est encore là. Si on ne prend pas les choses à partir de cette base-là, je crois qu'on faut, je ne peux pas dire à un parent, tu n'as pas le droit de faire ça à ton enfant. Vous savez, on a des gens qui amènent leurs enfants de France et quand ils voient les enfants faire chez eux-là, les parents ici disent, mais ça ne va pas, ils disent, non, chez nous, c'est comme ça, on n'a pas le droit de faire ça. Ils disent, mais quel droit un enfant a sur vous? On pense que c'est eux qui ont des droits sur l'enfant. Donc, voyez bien, il faut repenser le message. Je ne pense pas que les gens ne sont pas réceptifs au message, mais il y a des messages contre lesquels ils ont des arguments contre et qui n'arrivent pas à les convaincre. Donc, je pense que là, ça ne va pas. On avait même recommandé à certaines ONG de ne pas aller avec des Européens quand ils vont sensibiliser, parce qu'ils vont penser encore que c'est les Européens qui leur demandent de faire ça.
Oui, ça, c'est classique, on le sait bien, docteur. Donc, vous avez parlé de la loi, effectivement. Est-ce que le Mali, éventuellement, s'acheminerait vers une telle loi ou est-ce que, selon vous, ça va être vraiment très difficile?
Bon, vous savez, au Mali, on était en train de s'acheminer vers cette loi. Effectivement, moi j'avais fait l'étude, je suis passé en Guinée, je suis passé au Sénégal, au Burkina Faso, au Ghana, au Bénin. Bah, on avait dit effectivement qu'il n'y a pas de solution pour l'instant, c'est quand le Burkina a pris sa loi, les gens venaient faire l'excision au Mali. Les Burkinabés avaient protesté. parce qu'ils interdisent, et le Mali étant voisin, les gens préfèrent venir faire. Donc, moi, je pense que cette loi, si on veut vraiment lutter contre la loi, elle est inévitable. Mais malheureusement, on est dans une situation où on a souvent cette situation de démocratie, où on a besoin d'électeurs, où on a besoin de ceci. On ne peut pas être paraître comme porteur d'idées que les gens croient venir d'ailleurs. Or, c'est une décision politique qu'il faut prendre. Il faut avoir le courage. À partir du moment où, sur le plan religieux, vous ne pouvez pas l'interdire. Sur le plan des traditions, vous ne pouvez pas l'interdire. Les gens vous disent qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, maintenant, c'est sur le plan de la santé, sur le plan de la préservation de la santé de la population, des jeunes filles qui sont les mères de demain. Si elles n'arrivent pas à être les mères de demain, c'est la population qui va disparaître. C'est là que l'État doit intervenir. L'État doit avoir le courage de dire, je fais cette loi, d'accord. Je fais la loi comme on a fait au Sénégal, même si elle n'est pas respectée, toute loi est appelée à être violée. Mais je fais la loi, je sensibilise, je châtie quelque part, etc., etc. Mais je prends un temps pour faire montrer aussi les dangers sur la santé. Mais là, je pense que cet aspect-là, si c'est bien développé, si c'est bien passé, je pense que les populations sont très sensibles parce que le problème de la santé, vraiment, c'est ça qui les inquiète, d'autant plus qu'ils deviennent de plus en plus chers de se soigner dans ce pays-là.
C'était une discussion avec le docteur Younoussa Touré, sociologue malien, pour le magazine Au Féminin. Merci de l'avoir écouté et à très bientôt.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you, round two. You open your eyes, flat on your back, you look to the sky, your eyes.
Un peuple, un but, une voix, un et indivisible.